I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Nous sommes le samedi 24 juillet et nous sommes à Porteus. Alors Porteus, c'est un écrin fantastique en plein milieu de la nature, au bord des rives du Rhône, en périphérie immédiate de Genève. Et c'est le début de la saison d'été ici à Porteus. Donc on invite évidemment toutes les personnes qui vont écouter nos propos à venir. Parce que venir, ça n'est pas neutre, c'est déjà, eh bien, soutenir l'équipe de Porteus, dont on sait que le travail est encore long, que le projet est de longue haleine, qu'il est difficile et compliqué, que les adversaires, pour ne pas dire ennemis, sont nombreux. Mais voilà, le but, c'est de tenir, c'est de garder cet endroit-là et d'y faire, voilà, de la contre-culture accessible à bas coût et de qualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Laure. Alors, petit temps mort, Laure, est-ce que je t'appelle Laure ou est-ce que tu préfères que je t'appelle autrement ?
Non, tu peux m'appeler comme ça, c'est très bien.
Ok. Alors voilà, nous sommes en compagnie de Laure, dont on va découvrir le projet. Le projet, c'est notamment Game of Earth, mais tu vas nous en dire plus. Alors bonjour à toi et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah ben écoute, c'est un grand plaisir en tout cas. Alors voilà, ce projet, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on t'a approché, c'est cette chaîne YouTube. Mais voilà, avant qu'on parle de la chaîne YouTube, voudrais-tu en quelques mots te présenter à ta guise, toi et le parcours qui t'a mené à ton projet actuel ?
Enfin, d'abord, j'ai fait en gros un parcours universitaire, c'est-à-dire que j'ai eu une formation en philosophie. Donc, j'ai un master de philosophie, j'ai passé les concours de l'enseignement, j'ai un peu enseigné et j'ai démissionné pour tout un tas de raisons. La même année où j'ai démissionné, en fait, j'ai découvert un peu ce que fait un autre youtubeur, Politikon, qui tient effectivement une chaîne de vulgarisation sur la philosophie politique. Et je me suis dit, c'est vraiment super ce genre d'initiative de faire de la vulgarisation de philosophie avec des thèmes vraiment très particuliers, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la philosophie, il y a énormément de champs, c'est très large, il y a beaucoup de choses à étudier. Et moi, je voulais sortir un peu de l'approche qu'on a quand on est justement dans l'enseignement, dans le second degré. En France, on a des cours de philosophie en terminale, maintenant un peu plus dès le lycée, quoi. Quand on est effectivement enseignant à ce niveau-là, on est vraiment sur des trucs très larges qui permettent de balayer beaucoup de cultures, mais pas vraiment de rentrer dans les détails. Ce qui fait que ça reste un peu superficiel, et je comprends que ça ennuie beaucoup les gens parce que ça ressemble à beaucoup à de la tartine de savoir très condensée qui fait un peu violence symbolique. Et je me suis dit, le meilleur moyen de casser ça, c'est effectivement de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans les pensées en particulier et d'expliquer un champ à chaque fois pour que les gens aient le temps de bien rentrer dedans, quoi. Et alors Karim, qui tient la chaîne Politikon, lui, sa spécialité, c'est la philosophie politique. Et moi, les spécialités que je voulais approfondir, c'était donc les questions de pensée féministe et d'écologie politique. C'est ce que j'ai un peu travaillé quand j'étais en master. Et j'avais envie de me donner l'opportunité de reprendre un peu ces thématiques-là et d'approfondir, quoi.
Très bien, très bien. Oui.
Et quand j'ai démissionné, j'ai commencé à faire cette chaîne, donc Game of Earth, pour présenter un peu tout ça, quoi. Et puis, il y avait une sorte de but de professionnalisation dès le début, parce que qui dit démission dit trouver un autre travail. Et voilà, donc tout ça s'est construit autour du fait que je me suis retrouvée au chômage avec juste cette chaîne, quoi. Au début, je voulais faire des ateliers parce que ça me semblait très important de pouvoir parler directement aux gens et d'avoir des contacts récurrents avec eux. Sauf que, entre temps, est passée la crise du Covid, ce qui fait que rencontrer les gens, c'est devenu beaucoup plus difficile. Et c'était, par conséquent, ça a coulé de soi, on va dire, que je me suis focalisée sur la vidéo que je peux faire depuis chez moi, sans aucun contact avec l'extérieur. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Tu réponds déjà à toute une partie de questions qui allaient venir. Donc c'est très bien. On va immédiatement rappeler le site internet www.gameofearth.fr. Donc cette chaîne YouTube, effectivement, tu es également présente sur Peertube.
Oui.
Via la chaîne la session Skepticon, si j'ai bien compris, skepticon.fr.
C'est ça.
Alors voilà, YouTube, tu l'as dit, on en vit, en tout cas c'est ton cas. Est-ce que c'est facile d'en vivre? Est-ce que pour toi, il n'y a pas des moments où on dit, ouais, c'est peut-être, est-ce assez stable pour que je puisse vraiment, voilà, en vivre?
Alors YouTube, avant qu'on en vive, il faut des années et aussi il faut surtout avoir un contenu qui soit particulier, c'est-à-dire très grand public, si on veut vraiment vivre des revenus de YouTube, c'est-à-dire des revenus que génère la plateforme. Et la plupart du temps, ces revenus de plateforme, il faut avoir des millions d'abonnés pour que ça fonctionne sur une idée qu'on va se faire de l'argent. Et en plus de ça, la plupart du temps, ça tient sur des opérations qui sont des placements de produits, des partenariats avec des marques, etc. Donc moi, je ne peux pas dire que je vis vraiment de YouTube, mais disons que je m'en sers comme d'une vitrine pour avoir des contrats à l'extérieur. Et c'est une activité que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place. Et les opportunités que j'ai eues sont plus ou moins très extérieures à YouTube finalement, parce que j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de conseil en bibliographie pour les thématiques que je connais. J'ai fait de la vidéo de vulgarisation, enfin plutôt de présentation pour une université qui voulait en gros vulgariser, enfin pas vraiment vulgariser, mais vraiment plutôt présenter ses équipes et ses thématiques de recherche. Donc effectivement, c'est extrêmement précaire et ce qui me permet vraiment de vivre, c'est le fait que effectivement je partage ma vie avec quelqu'un qui lui a un revenu stable et sinon je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait quoi. Ça dépend vraiment du fait que à côté de moi il y a quelqu'un qui me permet de me consacrer entièrement à ça. Donc le but normalement c'est de devenir entièrement indépendante à terme financièrement, mais c'est très rare de commencer de but en blanc et d'arriver très vite à des revenus qui permettent de vivre, de dégager, de quoi payer des charges, etc.
Oui, donc voilà, c'est bien de rappeler que c'est effectivement un travail de longue haleine et que c'est qu'il n'y a pas de garantie, quoi. Alors dis-moi, revenons à quelques notions et un peu de vocabulaire. Tu as parlé de vulgarisation scientifique, de médiation scientifique. C'est des termes qu'on retrouve également beaucoup sur ton site internet et à diffusion des savoirs, etc. Est-ce que l'on peut dire que... est-ce à dire que tu fais de la pédagogie? Que l'éducation populaire, c'est un petit peu ça la notion centrale, ou voudrais-tu nous en dire un peu plus?
Alors, en fait, le site internet, il faut savoir que c'est plutôt la suite de la vitrine. En fait, c'est un site professionnel. Plus qu'un site de vulgarisation. C'est-à-dire que le site, il est là à destination des gens qui ont de l'argent pour se dire « je vais payer cette personne pour telle ou telle chose ». Donc, ça veut dire que les termes comme vulgarisation et médiation scientifique, c'est des termes qui sont à destination des professionnels plus que des gens qui font partie du public, si tu veux. Et alors, la vulgarisation scientifique, c'est plutôt, pour moi, de ce que j'en ai compris, et c'est des termes qui sont un peu flottants, c'est encore des choses qui sont discutées entre professionnels, mais vulgarisation, c'est plutôt, pour moi, de ce que je comprends, une sorte de produit fini, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose qui simplifie un contenu un peu compliqué, en gros. Donc ça, c'est plutôt l'activité YouTube. Et la médiation, c'est plus ce qui va se passer en présentiel, donc ce qui ne se passe plus vraiment depuis un certain temps, mais où là, vraiment, l'intervenant fait le travail de médiation, c'est-à-dire qu'il se place entre, enfin perpétuellement en gros, entre l'objet qui est compliqué et les personnes qui ont besoin d'avoir une médiation, d'avoir un accès facilité à cet objet compliqué en gros. Et donc ça va être les personnes qui travaillent dans les musées typiquement, qui font les visites, qui font des animations, etc. Donc ça, on appelle ça des médiateurs scientifiques et c'est plus ou moins un nom de métier qui est en train de s'installer. Et si je parle de médiation scientifique sur mon site professionnel, c'est parce que j'essayais de m'insérer dans ce milieu-là, au dehors du milieu YouTube, qui pour moi ne me dégagerait jamais de financement, en fait, on va dire.
Très bien. Voilà, une question un petit peu obligatoire, et puis qui effectivement a dû être posée déjà des milliers de fois, mais le nom, d'où vient-il ce nom? Pourquoi celui-là?
Oui, alors Game of Hearth, alors il faut savoir que le Hearth, que je prononce toujours très mal, ça veut dire le foyer, donc ça désigne en gros la pierre où on allume le feu dans la maison, et du coup, alors déjà c'est effectivement de manière assez flagrante un jeu de mots qui résonne avec Game of Thrones, donc la série ou la série de livres ou télévisé qui parle d'intrigues politiques et de conflits où tout le monde se met sur la tronche. Alors il y a l'aspect que, effectivement, je parle de choses qui sont conflictuelles et à l'intérieur du féminisme ou de l'écologie politique, on a des théories et des formes d'argumentation qui se répondent et qui parfois se répondent un peu chaudement, qui parfois se critiquent, etc. Donc c'était pour montrer le côté non consensuel de tout ce que je présente. En tout cas, la référence à la série, c'était surtout ça. Et ensuite, le fait d'avoir mis Hearth, donc la pierre du foyer, c'est parce que effectivement, il y a une double signification qui est le foyer, c'est là où effectivement on renvoie les femmes et c'est un lieu hautement stéréotypé. Et en même temps, le foyer, ça renvoie aussi à des thématiques politiques qui sont l'habitation de la terre et comment est-ce qu'on arrive à habiter sans détruire la maison au passage, quoi, sans mettre le feu littéralement à la maison. Voilà.
Ouais. Alors voilà, justement, venons-en. Tu as des thèmes de prédilection. Lesquels sont-ils et pourquoi ceux-ci plutôt que d'autres ?
À l'université, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours en philosophie, de philosophie sur l'environnement, sur les pensées environnementalistes, et ça m'avait énormément intéressée. Et je me suis rendu compte, par ailleurs, que c'était des choses assez peu connues dans le grand public, et je me trouvais ça dommage, en fait, parce que ça me semblait être des outils assez fondamentaux pour sortir de, comment dire, du vocabulaire un peu consensuel et avoir des... potentiellement une attitude un peu plus critique par rapport à tout ce qui est justement marketing vert, etc., où tout ça, c'est souvent une histoire de vocabulaire qui permet de vendre des produits, quoi. Et ça reste assez peu réfléchi, assez peu conceptualisé, parce que en tout cas jusqu'à assez récemment, je pense que c'était assez peu connu. Maintenant, ça commence, j'ai l'impression, ces pensées-là à être un peu plus démocratisées, justement parce que ça devient pressant. Mais à l'époque où moi j'étais à la fac et où j'ai découvert ça, c'était pour moi c'était vraiment une découverte et je me suis dit j'aimerais que ça puisse sortir. Alors pourquoi est-ce que ça m'a attiré moi en particulier? J'avais vraiment aucun background sur ce truc là c'est purement le cours où je me suis dit c'est génial, je veux savoir plus. Il y avait pas d'engagement politique en particulier, c'était juste vraiment un intérêt intellectuel, mais effectivement il y a des choses politiques dedans, ça c'est indéniable, et c'est probablement ce qui m'a amené encore plus loin ensuite. Et ensuite, pour la question féminisme et genre, ça s'est installé plus tard. C'était vraiment, pour le coup, l'inverse, on va dire, je pense. C'était des questions qui étaient un peu plus personnelles, où je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Mon parcours, c'était qu'au début, je pense que j'avais une position plutôt anti-féministe. Je ne comprenais pas, en fait. Je me sentais très bien. Je me disais, mais pourquoi tout ce foin ? Ouais. Et en me disant, pourquoi tout ce foin ? Je me suis dit, je vais aller regarder, je vais aller chercher. Et en allant chercher, je me suis dit, ah, waouh, c'est incroyable, tout ça, avec des choses si contradictoires. Et c'est totalement pas intuitif, en fait. On a beau être, être une femme, être assignée femme, ça vient pas tout seul, en fait. Donc, je me suis dit, je vais m'imprégner de tout ça pour essayer de comprendre et démêler un peu les fils, parce que c'est très foisonnant, il y a énormément de choses, et chemin faisant, en fait, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est d'essayer de l'expliquer, et c'est pour ça que la chaîne aussi me permet, pour moi-même, de continuer à explorer ces thématiques.
C'est-à-dire qu'une des manières de rester critique, de mettre en avant un esprit critique, c'est d'arriver à penser contre soi d'une certaine manière ?
En fait, c'était pas vraiment ma démarche, je pense, de chercher à penser contre moi, mais disons que moi je voyais ça plutôt comme de l'honnêteté intellectuelle. Si tu veux ne pas être d'accord, sache contre quoi tu veux ne pas être d'accord, par exemple.
D'accord.
Après, je pense que à l'époque j'avais pas d'avis, en fait, quand j'ai commencé. Je voulais juste comprendre, Je comprends tout à fait l'idée de penser contre soi. C'est quelque chose qui effectivement peut être assez salvateur. Après, je pense que ça peut avoir des limites, notamment quand ce sont des idées politiques. Penser contre soi, ça peut. Pense que par exemple, penser contre soi quand on va vers l'extrême droite.
Non, certainement.
Bof.
Non, l'idée c'était. Ouais, mais tu m'as compris. C'était l'idée de suspendre son jugement et puis de dans ce laps de temps-là aller comprendre. Aller investiguer tous azimuts, quoi, d'une certaine manière.
Ouais, je pense que moi, je dirais plutôt une sorte de suspension de conviction. C'est-à-dire qu'on se dit juste, je vais arrêter d'avoir un avis qui d'ailleurs n'est pas construit. Je vais regarder vraiment comment les autres construisent leurs argumentaires et est-ce que ça me semble cohérent, etc.
Ouais. Histoire des idées et philosophie, voilà, ce sont selon toi deux choses qui interagissent, qui se nourrissent l'une de l'autre.
Alors, la philosophie, c'est une discipline. C'est assez difficile de la définir de manière rapide et efficace, mais une des manières un peu rapide de le dire, c'est produire des concepts pour penser quelque chose et élaborer des argumentations pour faire la même chose, pour penser quelque chose. Donc, quand quelqu'un dit « je suis philosophe, je fais de la philosophie », pour moi, c'est l'idée de concevoir une pensée, en gros. Et l'histoire des idées, c'est plutôt un pas de côté pour moi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression d'être en train de produire ma propre pensée. J'ai pas l'impression d'être en train de faire passer mes idées, mes constructions à moi. J'explique ce que d'autres ont pensé et parfois l'ont expliqué de manière très obscure. Et du coup, ça peut remonter à très loin. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'aspect histoire. Il faut se dire, je sais pas, dans les années 70, comment est-ce qu'on pensait le terme genre, par exemple? Comment est-ce que ce terme-là émergeait, etc.? Voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même, il y a une différence, c'est la position qu'on a par rapport à la philosophie. Est-ce qu'on est en train de produire une nouvelle pensée ou est-ce qu'on est en train d'expliquer la pensée que les autres ont déjà eue avant ou sont en train d'avoir?
Tout à fait. Et alors toi, voilà, ta méthode, c'est de thématiser tout cela par des vidéos que tu essayes de rendre le plus relativement courtes, j'imagine, pour garder l'attention des personnes qui vont s'y mettre. Ça préfigure la question qui vient, qui est celle-ci. Quelles sont selon toi, les limites d'un tel travail? Est-ce que, voilà, YouTube, eh bien, est-ce qu'on arrive tout de même à, quand on parle de vulgarisation, à démocratiser les savoirs? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de l'entre-soi? C'est-à-dire, d'une certaine manière, d'une forme de biais de confirmation où, finalement, les gens qui vont venir écouter ça sont des gens qui ont envie de s'intéresser plus, mais qui s'y intéressent déjà? Voilà. Comment est-ce que tu te situes par rapport à cela?
En fait, je pense que le contenu que je produis, je suis très consciente en le faisant qu'il y a déjà un certain niveau de complexité qui fait que c'est pas ce par quoi il faut commencer. Très concrètement, pour moi, c'est pas ce par quoi il faut commencer. Et j'ai l'impression que les premières sensibilisations ne vont pas être forcément faites par des personnes qui connaissent bien les choses. Ça peut être des situations, par exemple, dans son entourage, dans la famille, des discussions avec des amis, ou simplement un livre, un film, qui vont faire émerger des questions. Et ensuite, on va se dire, j'ai envie de chercher plus sur telle thématique. Et après, il y a des niveaux de complexification de l'explication. Alors, il y a plein de choses qu'on trouve sur le féminisme et l'écologie politique qui sont plus simples que ce que moi je fais. Donc ça peut être des portes d'entrée sur quelqu'un qui s'interroge de manière plus simple que ce que moi je fais. Et en ce qui me concerne, moi, je pensais, quand j'ai commencé cette activité-là, je pensais qu'effectivement, un niveau encore supérieur de complexité n'était pas présent, mais pouvait intéresser certaines personnes. Donc, effectivement, le but, c'était pas de toucher l'intégralité de la population. Et je pense que, de toute façon, il n'y a pas un contenu qui est adapté à l'ensemble de la population dans le monde, quoi. C'est pas possible. Il faut que chacun va chercher un peu ce qui lui parle le plus. Mais plus on est à faire des choses diversifiées, plus on se donne l'opportunité de ramasser des gens au passage, quoi. Donc, c'est pas quelque chose où il faut se dire « Ah, il faut que je fasse le truc parfaitement pour m'adresser au plus de gens possible. Je vais être stratégique à fond. » Alors, il faut être stratégique un peu, mais je pense qu'il faut être conscient que, de toute façon, on n'aura pas une portée démesurée et que c'est une tâche collective, c'est une tâche partagée. Et chaque pierre apportée à l'édifice peut aider d'une manière ou d'une autre, en fonction des sensibilités qui vont être touchées, parce qu'on n'est pas touché par les mêmes contenus au même moment de sa vie et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Donc voilà.
Dans ce cadre-là, est-ce que c'est également pour cela que tu... Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas que tu fonctionnes en collaboration et notamment avec la chaîne Politikon, puisque à plusieurs reprises, tes vidéos sont en lien du travail que produit Politikon.
En fait, c'est juste parce que, on va dire que comme sa chaîne, c'était l'inspiration et que depuis, on a commencé à discuter, à échanger et qu'on a un peu je pense qu'on a un peu la même sensibilité, en fait, et du coup, on s'entend très bien sur ce genre de travaux. En fait, on a des thématiques qui sont très proches, finalement. Donc, quand il me dit, par exemple, « Ah, je vais faire ça », je lui dis « Attends, tu veux pas qu'on le déplace un petit peu ? Comme ça, j'ai le temps, moi aussi, de faire quelque chose. » Et comme ça, ça fait des beaux compléments, quoi. Beaux ensembles.
Voilà, j'allais dire, ça se complète extrêmement bien. Notamment, voilà, récemment, j'ai encore écouté celle sur le municipalisme libertaire. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, les collabs, pour toi, ça peut être une des pistes... pour l'avenir, est-ce que tu penses que tu vas continuer et pourquoi pas amplifier même tes collaborations avec d'autres chaînes ou c'est voilà ponctuellement quand tu sens que ça fait sens?
Pour moi, ouais, ça reste assez ponctuel. Alors, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. J'en ai pour plusieurs décennies, je pense, si je m'écoute. Oui, si à l'occasion, dès que j'ai une idée, en général, je suggère. Et puis, ça dépend aussi des emplois du temps des gens, ça dépend de mon emploi du temps. Mais effectivement, j'ai pas vraiment de plan de bataille très élaboré. Mais c'est toujours plaisant effectivement de travailler avec des collègues des fois, même si de toute façon les collaborations que j'ai pu faire sont pas non plus on n'a pas travaillé étroitement avec Karim, c'est-à-dire qu'on s'est dit ouais on fait des vidéos qui sont proches, dis-moi ce que tu fais, qu'on s'empiète pas trop dessus, et au final tout ce qu'on fait c'est qu'on s'échange nos scripts et qu'on se dit tel jour on sort la vidéo et comme ça ça fait une sorte de petit événement quoi.
D'accord. Et dis-moi, voilà, on est dans le monde qui nous encercle est complexe, compliqué. On traverse des moments de crise assez intenses et en plus durables en ce qui concerne voilà le climat, la pandémie, tout ça. Est-ce que parmi les pistes qui pourraient voilà venir à toi ou que tu pourrais explorer, le debunk, ça c'est quelque chose auquel tu as pensé?
On en a souvent parlé. Je sais qu'il y a des gens qui le font de manière très assidue et je leur dis bravo, mais ça doit être effectivement très très épuisant parce que c'est sans fin la source de désinformation. En fait, moi, la manière dont je conçois la chaîne, c'est un peu comme une bibliothèque. C'est-à-dire que s'il y a un besoin, il y a un stock d'informations expliquées, mâchées, avec des schémas, tout ça. Mais je réponds rarement dans l'instant. Parce que j'arrive pas à suivre les trucs d'actualité, etc. Moi, mon but, c'est vraiment de faire une sorte de panel très divers et pas forcément très actuel par ailleurs, parce que comme je fais de l'histoire des idées, pour moi, c'est des choses qui sont un peu passées, donc je m'autorise à aller piocher plutôt vers les années 60, 70, en remontant ensuite vers les années 90, évidemment, et sur les choses plus récentes. Mais le debunk, pour moi, c'est intrinsèquement lié à suivre l'actualité et être très réactif. Et c'est pas comme ça que je conçois mon travail, même si je salue beaucoup le travail des autres qui le font et qui ont ce courage-là. Moi, il me semblait très intéressant d'avoir à côté de ça un catalogue à disposition sur le plus long terme, qui soit étoffé et qui soit pas des connaissances éphémères parce que à tel moment on s'est mis à s'agiter sur telle thématique, etc.
Ouais. Alors effectivement, ton travail concerne le passé parce qu'il y a cette notion d'histoire des idées, le présent et le futur. Tu viens de le dire, la philosophie c'est aussi ça, c'est aussi de questionner des notions, de pourquoi pas de changer un petit peu le monde. Est-ce que on a cette ambition là est-ce que ce qui te mène, ce qui te conduit dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, eh bien c'est de se dire d'une certaine manière, même si c'est à ma petite mesure, eh bien je change le monde d'une certaine manière. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'habite lorsque tu fais ce travail là
Moi, ça me semblerait assez ambitieux de dire, de me dire ça de moi-même.
J'ai dit un peu, changer un peu.
Oui,
à notre mesure.
Oui. Oh, bah, il y a plein de manières de changer le monde qui sont très différentes et qui peuvent se faire au niveau local et pas sur Internet en visant des quantités incroyables de gens. Mais disons que j'ai la sensation que avec mes capacités et avec mes qualifications, c'est probablement ce que je peux faire de mieux, en fait. C'est ça que je sais faire. Moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses de découvrir tout ça. Donc, je me dis, bon, si à moi ça me sert et si ça me permet de m'éclairer dans le monde dans lequel je vis, peut-être que ça aidera d'autres personnes, peut-être que ça plaira à d'autres personnes. Voilà. Oui.
J'aimerais qu'on parle quelques instants des retours, des messages que tu peux et probablement du travail de modération que tu dois, auquel tu dois procéder lors des lives ou même lors des sur les commentaires des vidéos YouTube. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que il y a des retours qui sont quand même super sympas? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des personnes qui, voilà, qui te prendraient comme modèle? Je veux dire, j'imagine quelqu'un qui dit, ah, mais moi, je trouve, non, mais tu vois, je trouve la vidéo sur l'anarcha-féminisme est extrêmement inspirante. Peut-être que, voilà, une adolescente pourrait se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, j'aurais envie d'aller chercher ces idées-là et en même temps de les partager, enfin, tout ça, quoi.
Alors, pour répondre au début de ta question, plutôt, la gestion des commentaires, je pense que ça fait partie des trucs les plus pénibles, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est toujours mauvais, mais disons que les moments où c'est mauvais, ça fait très mal. Donc, il y a toujours un moment où je serre bien les dents avant d'ouvrir ma page YouTube pour aller faire les commentaires. Parce que j'ai toujours peur de ce qui va arriver, en fait. Je m'étais dit, effectivement, en commençant que... de toute façon, avec les thématiques que j'abordais, ça allait forcément un moment mal se passer. et franchement, je suis quand même assez agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à beaucoup pire. J'ai l'impression d'avoir plus ou moins quand même le lot commun des gens qui font de la vulgarisation sur YouTube ou qui sont simplement présents sur YouTube, c'est-à-dire des gens de très mauvais poil ou qui ont l'impression de tout savoir et qui laissent des commentaires un peu salés, quoi. Parfois, je me suis dit, il faudrait que je les ferme, mais en même temps, alors un peu moins maintenant, mais au début, j'avais, ou en tout cas, j'ai encore un peu régulièrement, mais des gens qui posent des questions vraiment de manière très très posée et qui juste veulent savoir des trucs, quoi. Oui, oui. Et je me suis dit, si je coupe la chic à tout le monde, je coupe la chic aussi à ces personnes-là, et c'est un peu dommage parce que c'est aussi un moyen que j'ai d'avoir des retours sur ce que je fais, etc. Il y a des gens qui ont la décence d'enrober un peu la manière dont ils s'adressent aux autres. Et du coup, ça, c'est quand je vois ça ou quand je vois les gens discuter de manière très posée, je me dis ce serait quand même dommage. Et des personnes qui m'ont dit moi je voudrais pouvoir regarder tes vidéos hors YouTube. C'est ça. Donc est-ce que c'est possible? Et comme j'avais été invitée par Skepticon, je me suis dit bon c'est pas grand chose, je vais les rejoindre, etc. Et puis ça donne l'opportunité aux gens de s'ils le souhaitent ne pas aller sur YouTube. Et puis c'est aussi non, Skepticon, c'est plus qu'une plateforme, en fait. C'est une association, donc il y a un vrai travail derrière. C'est une équipe, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là qui fait partie de ça. Donc ça se voit très peu, en fait, publiquement, parce que c'est une association assez discrète. Mais c'est une excellente association. Et allez les soutenir, ils sont très bien. On est très bien, parce que j'en fais partie.
Très bien. Skepticon.fr, on mettra bien entendu ça et puis les autres liens au libellé du podcast. Alors, ta chaîne YouTube, c'est Game of Earth. On arrive doucement au terme de cet entretien. Je vais voir si des questions parmi nous surgiraient. Mais avant que l'on en termine, j'aurais bien entendu voulu savoir quelle est ton actualité. Voilà, les prochaines vidéos auxquelles il faut s'attendre. Peux-tu nous en dire déjà quelques mots? Et puis, tes projets plus loin, tes aspirations. Est-ce que, voilà, c'est de continuer à faire évoluer cette chaîne YouTube qui est quand même tout de même extrêmement volumineuse déjà, parce que je sais pas combien il y a d'abonnés, mais ça se compte en milliers et milliers, il me semble.
En milliers, tu veux dire de personnes abonnées?
Ouais.
On est un peu plus de 10 000, je crois qu'on est 10 400.
Ouais, donc c'est tout de même énorme. Et alors voilà. Prochaine vidéo, est-ce que tu as déjà des petites choses que tu pourrais nous révéler? Et puis,
oui,
le deuxième
volet.
Ah, c'est demain! Très bien. Alors, écoute, tu vas nous dire ça. Et puis après, plus loin, voilà, tu as des projets comme ça qui t'habitent. Des projets peut-être pas encore très, très ficelés, tu vois, mais des vues de la suite.
Alors demain, on aura une vidéo qui sera sur un texte écoféministe assez connu, en fait connu de titre, mais pas très lu. Donc c'est sur le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne. Et voilà, je pense qu'on a une vingtaine de minutes sur cette autrice et sur cette œuvre. Et ensuite, août, je ne sais pas encore trop ce qui va se passer en août parce que j'ai la velléité de prendre des vacances. Donc, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et septembre, ce sera une revue parce que j'ai commencé à faire un peu ce format-là. C'est-à-dire que je surveille un peu l'actualité de publication de certaines maisons d'édition qui publient des textes sur le féminisme ou féministe ou sur l'écologie ou écologiste. Donc ce sera une petite revue en septembre. Et alors, en fait, scoop ici sur cette radio. Ce que je compte en faire en août, c'est effectivement parler de l'avenir de la chaîne, parce que l'avenir de la chaîne est un petit peu en suspens, ouais. Parce que il se trouve que j'ai eu des pérégrinations cette année. Que, je ne sais pas si ça a été beaucoup vu, mais j'ai fait une série de vidéos qui portait sur l'écologie dans un certain laboratoire qui s'appelle l'IHPST, qui est un laboratoire de philosophie des sciences et des techniques. Et j'ai fait une série de vidéos qui sont sur ma chaîne et qui parlent du coup de comment le thème de l'écologie est abordé dans ce laboratoire. Et j'ai travaillé pour eux également parce qu'ils me demandaient des vidéos de présentation. Et pendant cette conception de vidéo, j'ai rencontré des chercheurs et des chercheuses et finalement j'ai été recrutée dans un projet de recherche, donc à temps plein sur au moins un an.
Ouais. Bravo.
Voilà, merci. Et j'ai accepté parce qu'effectivement c'est un très beau projet. Alors je pourrais en parler un peu, mais en fait ce que j'aimerais pouvoir faire dans la suite de l'actualité de la chaîne, c'est vulgariser des choses que je découvre pendant mes recherches, puisque en fait le projet de recherche sur lequel j'ai été recrutée, c'est un projet qui est, je pense que ça va vous intéresser d'ailleurs ici, mais qui parle de santé publique. Ouais. Oui, tout à fait. De genre, de biologie et des derniers développements de la médecine et de comment ça se passe, en gros, sur des nouvelles approches de biologie moléculaire, et ça va jusqu'à la société, etc. Donc, c'est des choses que j'aimerais pouvoir présenter parce que ce sont des recherches très importantes et qui, je pense, intéresseront à la fois sur les côtés, effectivement, féminisme et genre, puisque... c'est au cœur du projet, en fait, au cœur du projet de recherche. Et puis, il y a des aspects environnementaux, puisque les questions de santé publique sont aussi rattachées à des questions de proximité de la toxicité, de population, de pollution, et de proximité de population et de pollution. Mmh. Donc j'aimerais essayer de dégager du temps au-delà des recherches, pour pouvoir continuer effectivement à entretenir la chaîne et à vulgariser sur ces thématiques, parce que il y a énormément de choses très très intéressantes qui, je pense, pourraient vraiment attirer le public que j'ai déjà sur la chaîne, quoi.
Très bien. Alors, une question va arriver incessamment. Juste avant ça, juste pour qu'on prenne bien la mesure du travail que ça implique, tout ceci. 20 minutes de vidéo, ça nécessite, alors évidemment les formats, selon les formats ça change, mais voilà, ça nécessite combien de temps de préparation, et est-ce que tu as un souci, est-ce que voilà, une des limites du travail sur YouTube, c'est d'avoir une régularité dans les publications, tu te dis voilà, une fois par semaine, une fois par mois, ou que sais-je?
Alors, le temps de travail, en gros, je pense que je passe une semaine à temps plein, voire un peu plus sur tout ce qui est l'aspect documentation.
Ouais.
Ensuite, ça va un peu plus vite, je pense, mais ça a évolué au fur et à mesure de la chaîne parce que j'ai appris la technique, et j'ai appris de comment faire un peu d'animation, etc. Et je pense que j'en ai pour une semaine et demie, deux semaines de tournage, de création d'infographie, de montage, et ensuite tout ce qui est créer la publication, faire des sous-titres, etc.
Ouais, voilà. C'est un gros travail, quoi.
C'est un gros travail.
On n'en doutait pas, mais c'était vraiment pour t'entendre le dire. Alors, une question, Pierre ?
Je voulais revenir à ces jeux ou à cette guerre du foyer, en fait. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Est-ce que c'est les enjeux les plus porteurs pour toi ou les plus importants pour toi ? Est-ce que c'est l'égalité ? Est-ce que c'est... peut-être le curseur entre patriarcat et matriarcat. Quels sont les thèmes qui te paraissent urgents ces temps-ci?
Cette époque. Moi, j'aurais tendance à dire que il faut éviter de se poser la question en termes d'urgence, parce que sinon, ça veut dire que on va se concentrer sur des priorités qui vont exclure d'autres priorités qui intéressent d'autres personnes. Et du coup, ça veut dire qu'on va essayer de faire du tri sur les gens, en fait. Donc, ça pose quelques petits problèmes éthiques. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de priorité, qu'il faut essayer de faire le maximum en même temps, sans oublier personne, sans oublier aucune problématique. Assez tristement, les enjeux du féminisme n'ont pas beaucoup changé depuis le 19e siècle, hormis que, effectivement, le droit de vote est passé il y a quelques décennies, et qu'on a un accès l'idée, c'est qu'on a un accès à la contraception, qu'on a un accès à l'avortement, mais les luttes sont toujours actuelles pour que ça reste comme ça et qu'on ne mette pas de nouveaux bâtons dans les roues, des processus qui ont été difficiles à mettre en place et à des choses difficiles qui ont été difficiles à obtenir et qui sont difficiles à conserver. Je pense que il faut toujours plus faire le lien entre les questions féminisme et les questions de sexualité, les questions de genre, etc. Parce que ce sont des choses qui sont liées les unes aux autres, et il faut aussi se méfier toujours des backlash potentiels, peu importe d'où ils viennent, puisqu'on a aussi beaucoup dans les courants féministes des courants qui se disent féministes mais qui sont souvent réactionnaires, et de cela il faut faire très attention, s'en méfier. Voilà, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question. J'espère que j'ai fait au mieux.
Oui, mais pour toi c'est toujours, tu parles de lutte ou de combat, disons, c'est toujours comme ça que les choses se font, selon toi?
Je pense que la question pourrait être de comment faire autrement, surtout. Et je ne suis pas sûre qu'on ait d'autres... Je ne sais pas, si tu as une idée d'autre chose, je veux bien des suggestions.
Pas mal,
mais,
pas mal.
À vrai dire, étant donné la manière dont les questions féministes sont reçues, c'est-à-dire assez mal... Je pense qu'on est encore, dans la lutte et pas dans dans l'aménagement de confort, quoi.
Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions parmi nous? Non. Ok. Ben écoute, alors je crois qu'on a fait le tour. Ma petite pirouette finale, c'est la suivante. Y aurait-il une question que l'on t'a pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre? Et puis, si c'est pas le cas, après, on rappellera évidemment la chaîne YouTube et puis la vidéo qui va apparaître demain et le site internet.
Est-ce qu'il y a une question là, comme ça? Il me semble qu'il y a une question où j'ai répondu qu'à la moitié, non?
Alors,
il n'y a pas un truc qui était passé à la trappe à un moment?
Ouais, c'est bien possible, c'est bien possible.
Sur la question du temps de travail, ensuite il y avait autre chose. La régularité.
Oui, bravo.
Tout à fait, c'était ça qui me manquait. Ok, en fait, oui, le souci de la régularité, c'est le souci de la visibilité. C'est-à-dire que, bon, alors moi j'ai jamais trop fait attention aux statistiques YouTube, parce que c'est des trucs très angoissants, et puis il faut vraiment être un énorme start-upper pour être très, très régulier. En fait, si on veut vraiment respecter les choses qui marchent, les recettes qui marchent, c'est une vraie industrie, quoi. Donc, il faut vraiment se mettre dedans, et c'était pas mon but, mon but, c'était vraiment d'aller doucement, etc. Et voilà, les impératifs financiers, je les traite autrement qu'avec l'industrie YouTube, quoi. Mais effectivement, je pense que, comme par exemple, j'ai ouvert une cagnotte Utip pour pouvoir soutenir l'activité de la chaîne, je me sens aussi un peu redevable du fait d'avoir des gens qui suivent et qui financent, etc. Et je me dis qu'effectivement, la régularité... est plus ou moins un dû. Par exemple, je me tiens à au moins une vidéo par mois, ce qui peut être un énorme travail, surtout quand on a un travail à temps plein côté.
Ouais.
J'exclus pas dans les mois qui viennent de travailler sur un rythme un peu moins soutenu, mais d'essayer d'avoir une régularité quand même, parce que en fait le problème sur YouTube, c'est qu'il y a énormément de contenu et qu'effectivement les nouveaux contenus deviennent des concurrents et puis on se fait oublier, etc. Bon, après, si la chaîne n'intéresse plus, c'est pas grave en soi.
On rappelle que voilà, la chaîne YouTube, c'est Game of Earth. Moi aussi, je prononce très mal, mais les personnes auront compris. On mettra quoi qu'il en soit le lien. Oui. Voilà, qu'il y a la possibilité d'aller également sur Peertube, Skepticon, et puis qu'il y a le site internet www.gameofearth.fr. Je te remercie beaucoup, Laure, pour du temps que tu nous as donné. Et puis, eh bien, on te souhaite bon courage pour la suite des opérations.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci. Ciao, ciao.